Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe sur les ondes du CKRL 89.1. David Rocketship est avec toi pour la prochaine demi-heure. On explore ensemble l'inexploré, on flirte avec le paranormal, on se donne des frissons, la seule source de chair de poule sur le FM de Québec. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire vos histoires à partager en écrivant un courriel à outretombe.ckrl@gmail.com. Vous pouvez aussi m'appeler pour me raconter vos expériences au 418-640-1586. Et justement, dans la dernière semaine, j'ai justement eu ce courriel de Éric de Sillery que je vous lis. Donc, ça va comme suit. En 2003, ma femme et moi avons emménagé dans notre première maison, un bungalow plutôt vieux, dans Sillery. On ne s'y est jamais vraiment senti à l'aise. Des fois, la nuit, on entendait des bruits de pas, même s'il n'y avait personne d'autre dans la maison. Le jour, on avait toujours l'impression de ne pas être seul. Le chien se mettait souvent à fixer dans le vide et même parfois à aboyer après on ne sait quoi vers le foyer, dans le salon. Une fois, dans le milieu de la nuit, j'ai entendu un bruit très fort, comme un choc lourd, mât, comme si quelque chose tombait sans vraiment faire d'impact, un genre de boum sourd. Ça venait d'en bas, au rez-de-chaussée, dans le foyer. Ma femme a aussi entendu et j'ai décidé d'aller voir. Comme je descendais l'escalier, j'entendais encore du bruit, comme un grincement cette fois. Un genre de léger « couic, couic » lent et lourd. Ça semblait venir du foyer. J'y ai passé la tête, mais je ne pouvais rien voir. Il faisait évidemment beaucoup trop noir. Mais je pouvais entendre le son qui venait effectivement de la cheminée. Les jours suivants, j'ai inspecté et fait nettoyer la cheminée. On n'a rien trouvé d'anormal. Mais de temps en temps, environ une fois par mois, on se réveillait dans le milieu de la nuit et on entendait les mêmes bruits. Un choc lourd et mât. Boum! Suivi d'un grincement léger et lent.
Quick, quick.
On a simplement appris à vivre avec. Ça a pris environ un an avant que l'on comprenne ce qu'on entendait. À force de jaser avec les voisins, l'un d'entre eux a fini par nous dire que l'ancien propriétaire s'était suicidé après avoir perdu une petite fortune au casino. Dans le milieu de la nuit, il avait accroché une corde sur le toit, l'avait passée à son cou et s'était pendu en se lançant dans la cheminée. C'est ce qu'on pouvait entendre périodiquement. Boum!
Cric, cric, cric.
Merci beaucoup à Éric de Sillery d'avoir pris le temps de nous appeler. Et comme je vous parle, j'ai un premier appel. J'ai le téléphone qui sonne. Je transfère ça à l'instant. Donnez-moi une seconde. Bonsoir, merci d'avoir appelé Fréquence d'Outre-Tombe. À qui est-ce que je parle?
C'est Isabelle.
Salut Isabelle, ça va bien?
Oui, toi?
Oui, absolument. T'as quelque chose à nous raconter, Isabelle, j'imagine, hein, si tu nous appelles?
Oui, c'est ça. Ben, nous autres, c'est une histoire un petit peu particulière. Là. C'est avec notre fille qui a aujourd'hui 5 ans, qui nous a fait des frousses une fois de temps en temps. Dans le fond, Léa, quand elle était bébé, elle avait comme des yeux vraiment particuliers, puis tout le monde nous disait, on dirait qu'elle veut voler notre âme, des choses comme ça, puis on riait de ça. Mais quand elle était petite, elle est rendue à 5 ans, c'est moins fréquent, mais quand elle était petite, il est arrivé quelques histoires un peu effrayantes là, avec elle. Dans le fond, une fois, elle s'est levée, plus qu'une fois, en fait, c'est arrivé deux fois ou trois, elle s'est levée la nuit, puis elle nous disait, mettons... je suis pas capable de dormir, le monsieur m'empêche de dormir. Puis là, on allait voir dans sa chambre, on lui disait, il est où le monsieur? Puis là, elle pointait dans le coin de sa chambre. Mais il y avait rien, là, il y avait personne. Ça arrivait, c'est ça, à quand même deux ou trois reprises. Puis une autre fois, ça arrivait aussi avec quelqu'un d'autre, dans le fond, parce que c'était le mariage à mon frère. Puis Tout le monde dormait dans un chalet. Puis pendant la nuit, elle est rentrée dans la chambre d'une autre personne, d'une fille. Puis elle nous a dit le lendemain matin, elle dit, ta fille est rentrée dans ma chambre cette nuit. Puis elle m'a dit, attention. Puis après ça, elle est repartie en courant. Elle dit, là, j'ai eu la chienne toute la nuit, puis j'ai pas voulu sortir de la chambre pour tout le reste de la nuit. Puis une autre fois, dans le fond, j'étais dans le salon, puis elle était en avant de moi. Puis là, elle me dit, c'est qui la personne en arrière de toi? Puis là, je me suis retournée tout de suite. On était tout seul dans la maison. Puis il y avait personne. Là. On était dans le salon, il y avait absolument personne. Puis je disais, de qui tu parles? Puis là, elle me pointait en arrière de moi. Puis là, je me retourne encore. Mais moi, je voyais absolument personne. Je pense qu'elle avait 2 ans ou 3 ans. Elle parlait pas encore super bien, mais elle vient dit, c'est qui derrière toi? Là? Puis une autre fois, c'était... Ah oui! Puis une autre affaire aussi, depuis qu'elle est née, en fait, à la maison... C'est arrivé à 2 reprises qu'il y a des oiseaux qui se sont fracassés dans vitre, qui sont morts, qu'on est allé porter dans poubelle. Là. Mais c'est vraiment juste depuis qu'elle est née que c'est arrivé à 2 reprises.
Hey, c'est cool, puis c'est quand même rare que ça arrive, ça, dans.
Ben, c'est quand dans même, vie, là, ça. Vie. C'est pas arrivé à personne que je connais, là, mais nous autres, ça fait 2 fois que c'est arrivé.
Waouh!
Fait que c'est un petit peu ça. C'est moins fréquent, c'est rendu à 5 ans. On dirait que c'est moins évident, mais ça nous a quand même fait peur à ce moment-là. Là.
Cool. On dit que les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses-là.
Ah, ça doit être ça, rendu trop vieille maintenant, peut-être.
Peut-être. Cool. Ben merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir raconté ça. C'est smart.
Ben, ça fait plaisir.
Bonne fin de soirée. Continue d'écouter Bye. CKRL.
Yes, tout le temps.
Bye bye. Et pour notre part, c'est maintenant l'heure de l'histoire de cette semaine. Au menu, un tueur en série qui a retrouvé une drôle de façon de cacher les corps de ses victimes. Cette semaine, je vous raconte une histoire vraie. Ça s'est passé dans les années 90, de 91 à 96, plus précisément. C'est une histoire qui est vraie. J'ai changé les noms. Puis les endroits pour les besoins de la cause, mais tout ce que je vous raconte là est arrivé pour vrai. Je vous parle de Joe. Joe habite à Vanier avec sa blonde Diane puis leur fils de 10 ans, Maxime. Ils habitent les trois dans Vanier, puis bon, ils mènent pas la grosse vie là. Joe et Diane sont tous les deux dépendants de drogue dure, ça va semi bien. Joe est pas tout à fait stable, il y a souvent des épisodes où il éclate de colère, il est souvent très violent, puis en plus il est junkie là, il est addict à la dope. Donc à un moment donné, Diane à Stan, elle se sauve de là avec son fils, avec leur fils de 10 ans, elle se pousse. Lui, il revient de travailler, il est camionneur, c'est que des fois, il est quelques jours sans être à la maison. Donc, il revient de travailler un soir, puis, c'est ça, il n'y a personne à la maison, sa femme est pas là, son enfant est pas là, et bon, il n'y a rien de majeur qui manque, mais tu sais, il voit que les effets personnels sont partis, fait qu'il comprend très vite, là, fait qu'il appelle ses amis, il appelle la famille, tout ça. Bon, tout le monde dit qu'ils savent pas où ce qu'est Diane, puis Maxime. Mais là, lui, il se doute bien qu'il monte, en fait, pour les protéger. Puis, bon, il se doute bien qu'elle est partie. Puis là, il aimerait ça la retrouver, il veut la retrouver. Puis, il pense qu'il est capable de la faire changer d'idée ou qu'il est peut-être un peu sur un genre de power trip, là. Ça fait que, faut pas oublier qu'il est accro, Joe. Donc, il entend des rumeurs comme de quoi qu'elle serait déménagée à l'autre bout de la ville, là. Ils sont présentement installés à Vanier. Puis entend parler qu'elles sont plus, qu'elle est peut-être au centre-ville, plus ici au centre-ville, dans le coin de Saint-Roch, là, proche des, vraiment plus dans le centre-ville, puis qu'elle se serait trouvé un autre chum, là, qu'elle aurait emménagé là avec un autre gars. Ça qui fait ses petites recherches, il la trouve pas, il est pas capable de remettre la main sur Diane, mais là, il entend dire qu'elle est comme devenue, travailleuse du sexe, là, pour être capable de payer, de se payer de la drogue, justement. Ça qui va à un endroit en dessous des viaducs, là. C'est l'île aux Fleury aujourd'hui. À l'époque, c'était beaucoup moins, je dirais, accessible, disons-le comme ça. Ça qui s'en va là, puis il commence à demander un peu autour. Avez-vous vu ma blonde? Elle s'appelle Diane, elle a l'air de ça, nanana. Puis là, il y a un soir, et ça fait une couple de fois qu'il y va. Puis là, il y a un soir, il y a deux hommes, là, probablement sans-abri, deux hommes sans-abri, qui sont là, en dessous du, en dessous du pont, puis qui font leur petit truc, ils font rien, en fait. Fait que Joe les aborde, ils disent « cherche ma blonde », puis il est high ce soir-là, il est vraiment sur un trip, puis il est dans sa bulle, il est même un peu paranoïaque, puis on le sent. Fait qu'il débarque là avec une hache, prêt à je sais pas quoi, puis il commence à parler aux deux sans-abri, « cherche ma blonde, à l'air de ça, l'avez-vous vu, tout ça ?» Les deux sont comme « non, on l'a pas vu, je pense pas qu'elle traîne par ici ». Puis lui, il accepte pas ça, puis il est sûr qu'il mente, là. Il est comme un peu paranoïaque, il est dans son trip. Fait qu'il en attaque un avec sa hache. Puis là, je vous épargne les détails. Non, je vous épargnerai pas les détails. Fait qu'il en attaque un avec sa hache. Il l'atteint à la mâchoire. Sa mâchoire casse, il a la langue qui pend. Il se tient le visage à deux mains. Puis comme il tombe à genoux à terre, Joe prend sa hache, puis frappe dessus, du haut, vers le bas, sur sa tête. C'est que sa tête éclate en morceaux. Il y a les petits morceaux de cerveau, de cervelle, partout à terre. Là, son autre ami, il capote. Il dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'il prend un tuyau d'acier qui traînait là par terre, puis il saute sur Joe. Il donne un ou deux coups sur le dos, mais ça a jamais été assez. Joe se revire de bord avec sa hache, puis il enfonce sa hache en pleine tête à lui aussi. Puis finalement, continue à frapper sur le cadavre jusqu'à ce que ce soit juste des petits morceaux. Il coupe les jambes, il coupe la tête, il coupe les mains. Bref, il laisse les deux cadavres là en petits morceaux. Puis là, un peu plus tard en soirée, il traîne dans le même coin. Et les cadavres, les dépouilles sont encore là. Puis un peu plus loin, il voit justement une travailleuse du sexe là qui est là, puis qui probablement qui essaie d'apporter des clients. Donc il l'aborde, il dit ah, écoute, cherche ma blonde, elle a l'air de ça, est-elle grandeur, elle s'est sauvée, tout ça. Elle a dit non, je sais pas c'est qui, je l'ai pas vu. Puis encore une fois, il est dans son trip, hein, c'est qui. Il l'attaque elle aussi. Cette fois-ci avec le morceau de tuyau qu'il a trouvé un peu plus tôt. Il frappe, il se met à la battre. Bref, il a tue elle aussi. Puis là, quand il se rend compte qu'elle est morte puis que son corps est sans vie, ben là, il se déplace puis il va la cacher dans un buisson plus près de la rivière Saint-Charles à ce moment-là. Puis comme il est là, près de la rivière, il voit un gars qui est en train de pêcher. Là, c'est rendu très, très tôt le matin. Il voit un gars qui est en train de pêcher, donc il est toujours dans son trip, un peu paranoïaque, puis là, il se dit « Hey, c'est sûr qu'il m'a vu, puis c'est sûr qu'il va me stouler, tout ça. » C'est qu'il va voir ce gars-là, puis il s'approche tranquillement par en arrière, il prend par en arrière, puis il a encore son tuyau d'acier dans les mains. C'est qu'il frappe en arrière de la tête, bang, 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 le gars tombe à genoux, puis là, pareil, il bat, il frappe jusqu'à ce qu'il tombe sans vie. Là, il pousse dans la rivière en se disant « Bon, ça y est, c'est bon, il n'y a pas de témoin, personne m'a revu ça. » Un peu plus tard en entrevue, Joe aura parlé de cette soirée-là en disant, je cite, « Ça a été une soirée bien occupée, j'ai fait 4 meurtres en dedans de 7 heures. » Fin de la citation. Puis un peu plus tard, Joe se fait finalement arrêter pour le meurtre des deux sans-abri qui étaient là en dessous du pont. Mais le problème, c'est qu'il n'aura pas eu assez de preuves. Il a passé presque un an en prison avant son procès. Mais finalement, son procès a eu lieu, puis il a manqué de preuves. C'était plus des bouches à oreilles. Les gens disaient « Ah oui, on l'a vu, il était là. » Mais bref, il n'y avait pas de preuves assez tangibles. Fait qu'il a été relâché. Mais toute cette soirée-là, toute cette histoire-là, il a donné un peu le goût puis la soif de violence, là, si on veut. Puis on dirait qu'il y a juste ça qui réussissait à le calmer. Notre ami Joe. C'est qu'il a comme développé, à partir de là, il a développé un genre de pattern ou d'habitude d'aller appâter des travailleuses du sexe. Il disait, il ramenait chez lui en disant, bon, je vais te payer, je vais te donner de la drogue. Ils achetaient beaucoup en leur promettant de la cocaïne, en fait. Là, ils appâtaient, ils les amenaient chez elles. Puis dès qu'ils ramenaient, ben là, ils les tuaient. Fait que la première fois, c'est ça qui est arrivé. Là, il est avec, bon, justement, il débarque chez eux, puis toujours dans Vanier. Puis là, elle s'attend un peu à rien. Puis là, il l'attaque, cette fois-là, avec un bat de baseball. Fait que c'est pareil, un coup de bat de baseball, il défonce le crâne. Elle tombe par terre, puis là, il abat avec le bat de baseball à plusieurs reprises. C'est ce qui est arrivé, cette fois-là, avec la pauvre Puis là, à ce moment-là, lui, il dit, ben moi, il faut que je me débarrasse du corps. Puis comme il est camionneur, il transporte des pièces de mécanique lourde. Puis il a accès à des genres de crates de bois, des genres de boîtes de bois. Il dit, je vais cacher le cadavre là-dedans, je vais le fermer avec des clous, puis je vais pouvoir tirer ça dans la rivière, puis personne ne va jamais retrouver ça, tu sais. C'est que là, la pauvre est morte. Là, lui, il essaie de la rentrer dans son petit crate de bois, dans sa petite boîte de bois, mais ça rentre pas, là. Il essaie de mettre les membres d'un autre ordre. Là, ça plie pas comme il voudrait, ça qu'il prend un gros marteau, clac, puis il casse un bras, clac, casse un tibia, les jambes, les bras. Là, finalement, ça réussit jamais à rentrer dans sa boîte, ce pauvre cadavre. Ce qui prend un gros couteau de boucher, puis commence à découper tout ce qui est de viande, en fait. Commence à dépecer carrément les cadavres. Coupe tout ce qui est un peu gras ou ce qui est du muscle pour qu'il reste finalement presque juste les os, tu sais. Là, ça finit par rentrer dans son crête de bois. Ce qui referme ça à coup de marteau. Touc, 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 touc. Il va tirer ça dans la rivière. Puis là, tout ce qu'il y avait de viande, finalement, mais il sait pas quoi faire avec, fait qu'il garoche ça dans son congélateur, un genre de congélateur tombeau. Fait qu'il tire tout ça là-dedans. Il dit, au moins, ça sent pas, ça pourrira pas, puis ça va me donner le temps de réfléchir à comment je vais me débarrasser de ça. Mais pour l'instant, il y a plus de cadavres sur les mains. Ça le calme pour un petit bout de temps, notre ami Joe, mais un peu plus tard, il répète un crime semblable. Il réussit à apporter encore une fois une travailleuse du sexe chez lui. Il dit, j'ai de la drogue, tu vas voir, ça va être le fun, je vais bien te payer. Puis là, quand elle arrive cette fois-ci, il l'attaque, il l'étrangle avec une corde de guitare, puis il l'étrangle, puis là il tire, puis il tire, puis il tire. Mais bon, c'est une petite corde de guitare, ça fait que ça finit par transpercer la peau, puis éventuellement de la décapiter avec une corde de guitare. Donc la pauvre, ça aurait été son dernier soupir. C'est que c'est pareil, il coupe tout ce qui est muscle, bon, tout ce qui est un peu gras sur le corps, puis il jette le reste dans le fond de la rivière, dans une boîte de bois pour que ça rentre, puis garde tout ce qui est la viande finalement dans son congélateur. Puis le profil ou le Son crime type s'est répété comme ça plusieurs fois. Il aura confessé plus tard en entrevue qu'il a tué comme ça 21 personnes sur un an et demi. Puis Joe, il est camionneur, hein, comme je vous le disais, il couvre Québec-Ontario. Il fait sa run, puis il y a des saisons où il y a plus de travail que d'autres. Donc l'été, il décide de s'ouvrir un petit stand pour vendre genre un petit casse-croûte sur le bord. Il l'avait installé, lui, à l'époque, ça c'est en 92, sur le bord de la 138, là, la route qui longe le fleuve. Il est quelque part autour de Donnacona, de ce que j'ai pu comprendre. Il s'installe un petit stand là-bas, un genre de petit casse-croûte, un petit coin de terrain. Il vend de la poutine, il vend des hot dogs, il vend des burgers, mais ce qui pogne le plus, c'est ses pains à viande. Puis là, vous me voyez venir, hein? Ses pains à viande. Donc là, il décide que ça prend un petit peu de goût, un petit quelque chose d'extra dans ses pains à viande. Puis là, il pense qu'il y a toute cette viande-là qui dort dans son congélateur, puis qui coûte rien, en fait. Donc, il commence à hacher la viande de ses victimes, puis à mélanger ça avec la viande de bœuf. En fait, puis là, il goûte ça, puis il dit, hey, c'est bon, c'est un petit quelque chose de... C'est un petit goût de revenez-y. Il dit, je pense que ça va pogner. Ça fait que tout le monde arrête à son stand, des touristes, des baby-boomers en moto les dimanches matins sur le bord de la 138, d'autres camionneurs aussi qui prennent cette route-là. À l'époque, l'autoroute est un petit peu moins belle, puis la vieille route est encore très, très fréquentée parce qu'il y a plusieurs arrêts sur la 138. Donc, pendant un an et demi comme ça, il y a une infinité de gens qui s'arrête au petit casse-croûte, là, sur le coin d'un champ, sur le coin de la rue, sur le bord de la 138, puis qui mange des hot dogs, mais surtout des pains à viande de Joe. Puis là, sans le savoir, ces centaines de personnes-là, ben, deviennent tous un peu des genres de cachettes pour sa viande qui savait plus où cacher, ou qui savait plus quoi faire avec, de toute façon. Puis un soir, Il répète un peu son pattern ou son crime type. Il invite une fille chez lui. Puis là, comme elle rentre, elle est dos à lui, il l'assomme avec un marteau, cette fois-ci. Puis là, elle tombe par terre, puis juste le temps que lui se revire de bord pour prendre de quoi l'attacher, ou bon, je sais pas quoi, il se vire de bord juste une fraction de seconde, puis elle a le temps de revenir à elle, puis de se sauver. Tout, elle sort de la maison, puis elle court, puis elle sauve, puis elle sauve, puis elle va directement au poste de police. Puis cette fois-là, Joe, quand il a vu que la fille se sauvait, il a même pas essayé, il s'est dit, c'est ce qu'il aura raconté en entrevue après coup, là. Il s'est dit tout de suite, quand il l'a vu se sauver, il dit, bon, ben ça y est, c'est fini, puis ils vont m'attraper. C'est qu'il attendait chez eux, il est sorti de la maison, devant son terrain, puis il attendait calmement quand les policiers sont arrivés, puis ils l'ont embarqué. Il aura confessé, finalement, là, comme je vous disais, 21 meurtres, incluant les deux personnes sans abri, pour qui il avait été arrêté deux ans auparavant, environ 2 ans auparavant, puis qui avait été relâché. Puis lui aura dit pendant les entrevues, pendant son procès, et je cite, quand vous allez vous arrêter sur le bord du chemin, à un petit casse-croûte, à un petit chac à patates, puis que vous allez manger un bon smoked meat ou un bon pain à viande, il dit, pensez à cette histoire-là. Puis dites-vous que vous êtes peut-être en train de cacher des preuves d'un crime. Fin de la citation. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette édition de Fréquence d'Outre-Tombe. Cette histoire-là m'a creusé l'appétit. Je vais aller me faire un petit snack. Puis on se quitte sur une pièce musicale de Deadbolt, le groupe le plus effrayant au monde, avec Roadside Cross, tiré de l'album Voodoo Trucker.
I'm coming out of Kingman one night, and I saw this dude hitching. He had a guitar. So I said, jump in, son, my radio's busted. Now, well, maybe you can play me a song or two. He said, sure, I'll play a song. He sang, I'm the I-40 killer, the devil's trail boss. And when they find your body, I'll put up roadside cross. A roadside cross. Well, see, I said, son, I don't like that song too much. Why don't you play another? And he pulled out a gun. He said, pull over on the highway. I'm gonna kill you, you song bitch. He started singing that song again, humming it. Kinda creepy. I'm the I-40 killer, the devil's trail boss. And when they find your body, boy, I'll put up a roadside cross. A roadside cross. Get out of the cab now. You got any last words before you die? Son, you don't have to do this. Oh, don't you tell me what, dear. So we're out in the desert and the full moon shining down. So I says, let me have one last smoke. So I rub my mojo hand in my pocket. Then a sidewinder comes out of nowhere. Strikes him in the hand when the gun falls on the ground. I kick him in the teeth and I grab the gun. I said, well, let me hum you a little song, boy. Said, you may be the I-40 killer, the devil's trail boss. But I'm a voodoo trucker, son bitch. And
They'll never find your body, not even a roadside cross. Not even a roadside cross. Starts crying like a little baby. Adios, scumbag.